Stéréochic.
Stéréochic.
Radio.
Les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Abonnez votre enfant à un magazine Bayard ou Milan, c'est faire grandir en lui un appétit de lecture. Bayard-monde.com.
Les Français parlent au français.
Les Français parlent au français.
En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier.
C'est parti.
Bonjour, c'est parti pour une nouvelle semaine. Soyez les bienvenus sur Stéréochic Radio. C'est en direct pendant 90 minutes, émission 307, les Français parlent au français. On va retrouver Julie et Ben, deux Français qui sont partis vivre une sacrée aventure à New York. Ils vont nous raconter leurs péripéties. Véronique, dans notre séquence Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, va nous présenter sa société Verimage. Et puis Olivier s'est lancé dans un podcast, Le Dernier Français à Londres. Ce sera un média dans le monde tout à l'heure vers 12h40. La rediff du jour, Jennifer et la sophrologie. Et tout de suite, la pépite.
Les Français parlent au français.
Écoutez, une fois par heure, notre titre coup de cœur. C'est la pépite stéréochic.
Alors, la pépite, faut qu'on vous en parle, un truc de ouf. Il est habitué au coup médiatique, il avait déjà, pour la sortie de son album précédent, fait une vidéo live dans la rue où il faisait semblant d'être ivre-mort. Stromae a à nouveau sévi hier pour faire un truc qu'on n'avait jamais vu. Il est très très fort, ce monsieur. Présent sur le plateau de TF1 pour répondre aux questions de la journaliste. Au bout de 7 ans d'absence, il vient parler de l'arrivée de son album. Et puis la journaliste lui pose une question sur son nouveau titre qui parle du mal-être et du suicide. Et c'est là que, subitement, on voit Stromae qui se met à chanter. On est sur le plateau TF1 dans le journal de 20h et pendant 3 minutes, il chante son dernier titre, L'Enfer. La prestation est extrêmement surprenante. Les réseaux ont été stupéfaits par ce qu'il a réalisé. C'est d'une grande qualité. On va découvrir ensemble et comme chaque heure aujourd'hui, le nouveau titre, deuxième single, extrait du futur opus de Stromae. Ça s'appelle L'Enfer. Soyez les bienvenus sur Stéréochic, la radio des Français dans le monde.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Ah,
in when your heart's not open.
Ce morceau de Madonna grâce à TikTok, comme quoi tout est possible. C'est Kik avec le remix de Frozen. Merci d'être sur Stéréo Chic. Installez l'application mobile pour pouvoir nous suivre un peu partout. Application valable pour Apple et Android. L'émission Les Français parlent au français va faire plusieurs fois le tour du monde cette semaine. On va commencer tout de suite avec New York.
Stéréo Chic.
Un Français dans le monde, le podcast.
Allez, venez avec moi, on va à New York retrouver une jolie petite famille. Ils sont 4, 2 et peut-être plus vont répondre à mes questions. Il y a Julie qui est là. Bonjour Julie.
Bonjour Gauthier.
Il y a Ben.
Bonjour Gauthier.
Et deux enfants de 11 ans et 1 an. Et puis on va raconter un petit peu votre parcours de vie. Attention, accrochez-vous, on va vivre de grands moments. Tout ça pour commencer en France. Vous êtes originaire de Rouen, mais déjà en France, vous aviez la bougeotte. Il y a eu du Nice, il y a eu du Bordeaux, il y a eu du Paris. Vous n'avez pas resté beaucoup longtemps au même endroit, vous ?
Non.
Non. Il y a eu la Vendée aussi.
Mes sources ne sont pas très précises. Bon, en tout cas, ça commence à Rouen. Et alors là, il y a quelques années, vous vous dites « on vivrait bien la grande aventure de l'expatriation pour ouvrir un restaurant zéro déchet, direction New York ». Pourquoi c'est New York qui a retenu votre attention ?
Alors en fait, quand on en a parlé avec Benjamin, on s'est dit, ok, donc on veut ouvrir un restaurant, on ne veut pas en faire que un, on voudrait montrer une entreprise qui puisse être multipliable un peu partout dans le monde. Donc du coup, on s'est dit, par où commencer pour que ça soit facile après de l'expatrier ? Et on s'est dit, mais en fait, New York, en général, quand tu ouvres quand même un restaurant ou une compagnie, tu vois, aux États-Unis, ça marche beaucoup mieux, par exemple, en France que quand tu fais l'inverse. Donc on s'est dit, ça va peut-être être difficile, mais New York, ça semble être une bonne idée pour tester le projet.
Alors vous arrivez là-bas, vous travaillez sur le projet. Alors zéro déchet, c'est parce que vous êtes très investi dans la cause d'une planète plus propre et de l'éco-responsabilité.
Exactement, oui.
Oui, tout à fait.
Et là, vous travaillez sur ce projet, des investisseurs sont trouvés. En gros, tout est prêt.
Tout, même le local. Même on avait local. Un super jardin, on était ravis. Tout était magique, on avait tout trouvé.
Et puis nous sommes en mars 2020, à arrivée du Covid. Alors, faut savoir que Julie, elle rigole toujours. Parce que les trucs après, c'est affreux. Et ben, elle rigole quand même. Alors, en l'occurrence, tu m'as raconté, Julie, le restaurant était prêt à ouvrir. Mais heureusement, à la limite, que vous n'avez pas signé avec les investisseurs et que le resto n'a pas ouvert, vu que tout a fermé pour des mois. Donc, si vous aviez ouvert, vous auriez été financièrement pris à la gorge.
Bah oui, puis...
Ouais, ça aurait été compliqué. Déjà, en fait, on aurait été en plein dans les travaux.
Et on n'aurait même pas pu faire les travaux, puisqu'en fait, les entreprises du bâtiment ne pouvaient pas travailler, n'ont pas pu travailler pendant, je crois, presque 6 mois, si je me rappelle.
Ouais, en fait, tout le monde a pris énormément de retard à cause de ça. Donc, ça nous a... oui, effectivement, ça nous aurait pris financièrement à la gorge.
Ouais. On aurait fini en prison, peut-être, tu sais. Ouais. Ah ben... Vous pouvez pas payer vos loyers.
Je vous aurais envoyé des oranges, parce que venir les ramener, c'est un petit peu coûteux en ce moment. Là-dessus, bah, ça ne suffit pas, tu vas tomber malade. Alors que tu es enceinte, tu vas tomber malade de cette fameuse pandémie qui a emmerdé toute la planète. Un bon gros Covid. Et à ce moment-là, tous les deux, vous vous dites, bon, on va gérer cette maladie nous-mêmes à la maison. Parce que aller à l'hôpital à New York dans cette période, c'était pas très cool.
C'était un peu fou à l'époque, en fait. C'était vraiment le début de la pandémie. C'était au mois de mars. Mars-avril, je crois, un truc comme ça. Et en fait, on voyait les infos à New York, il y avait plus de 800 morts par jour, c'était de la folie, quoi. Donc on s'est dit, non. Enfin, on sentait bien que si Julie allait à l'hôpital, presque elle n'allait pas en ressortir, quoi. C'était assez.
C'est vrai qu'on sentait que c'était les premiers. Enfin, on testait, en fait. Tu vois, on voyait bien que les médecins, ils testaient. Puis on a un pote aussi, sa femme est docteur dans un hôpital sur New York, et en fait, elle lui a dit, mais pareil, il était malade, n'y va surtout pas, tu reviendras jamais vivant.
Cool.
Enfin, tu vois, même certains docteurs avaient un peu peur aussi, même pour leur famille, parce qu'en fait, on ne connaissait pas cette maladie.
C'est vrai que on avait, nous, en France, des images de New York qui étaient un peu effarantes. La ville s'est complètement arrêtée. Vous avez quand même pu vivre une expérience, parce que c'est un vrai film, les rues de New York, qui sont logiquement si animées.
Oui.
Ah bah, oui, moi, je sais que j'ai pris la température. Ouais, je pense que ça faisait une semaine qu'on était en couvre-feu. En couvre-feu, je me rappelle plus le terme français, en lockdown. Et en fait...
Confinement.
En confinement, merci. Et donc, ouais, j'étais sur la 5e avenue à New York, et qui est quand même très, très animée. Et là, c'était totalement désert. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Times Square était désert, ce qui n'arrive jamais. Donc, c'était assez étrange.
Ouais. Ouais,
alors, j'imagine que le projet du resto qui tombe à l'eau... 2 mois de maladie, la grossesse en même temps, c'était pas l'ambiance au top.
Bah écoute, en fait, pendant les 2 mois de Covid, on ne savait pas qu'elle allait venir. Donc je t'avouerai qu'en fait, heureusement, parce que je pense qu'on aurait été en panique et peut-être que du coup, je serais quand même allée à l'hôpital, je pense. Mais quand on a su qu'elle était là, on s'est dit, bon écoute... Enfin, c'est peut-être un beau cadeau, en fait. Tu vois, faut qu'on voit ça comme quelque chose de positif. Et puis, du coup, après, on a réfléchi, on a voulu créer Closis. Enfin, tu vois, il y a tout... En fait, ça a tout déclenché, en fait. On s'est dit, mais OK, on a réussi à survivre à ce Covid pendant 2 mois. Parce que quand même, les garçons ont eu très peur pour moi. Et un bébé qui arrive, donc c'est qu'il y a la vie. Enfin, tu vois, il y a un beau message derrière, en fait. Et on se dit, bon, allez, vas-y, on y va. On ne sait pas où on va aller. C'est la grosse flip dans plein de domaines. Mais on est prêt.
Ouais, puis en plus, c'était une période un peu hors du temps, j'ai envie de dire. Parce que New York, c'est quand même une ville qui est speed tout le temps. Et là, en fait, on avait cette espèce d'atmosphère. On a l'impression qu'il y avait une pause, en fait.
Ouais, une pause dans le temps, ouais. Et là, il y a une hirondelle qui arrive pour le printemps. Je dis hirondelle parce que c'est la traduction du prénom de la petite qu'on entend chanter un petit peu sur l'antenne. Elaya est arrivée en pleine forme. Elle était en pleine forme.
Ah oui, pas de problème.
Et là, Ben arrive avec une nouvelle idée. Décidément, un jour une idée. Qu'est-ce que tu vas annoncer à madame ?
Et ben en fait l'idée c'est de partir vivre sur un bateau.
et donc il arrive et comment tu m'as dit ça ? Est-ce que c'est ça qui était comme...
Bah moi j'ai toujours rêvé en fait de...
Mais la manière dont tu me l'as apporté, l'idée, tu te souviens ? Tu m'as dit, ah j'ai... Écoute, j'arrive pas d'y penser, enfin je sais pas comment tu m'as dit, mais...
Bah c'est ça en fait, pendant la pandémie on avait du temps, donc un jour je suis tombé sur une vidéo d'un couple aux Bahamas qui vivait sur un bateau en autonomie, je me suis dit mais en fait
c'est ça que je veux faire.
J'ai envie de faire ça, quoi. Après j'ai toujours été passionné par la voile, donc ça m'est pas venu non plus comme ça, mais ouais. Puis je me suis dit, en plus j'en avais un peu marre du Covid, mais j'ai plus envie de vivre en fait à la merci de ce truc-là qui nous interdit d'aller au resto. J'ai envie d'être libre un peu, et je pense que c'est un bon moyen d'être libre de sur un
bateau. Et bah du coup, dans quelques semaines, vous allez avoir un voilier parce que ce projet se concrétise. Le voilier a été choisi déjà ?
Le type de voilier, Ben est en train de travailler là-dessus.
Ouais,
en fait.
On a des idées assez précises de ce qu'on veut, ouais, bien sûr.
Mais voilà. Dans tous les cas, le site internet continuera. Julie continuera à l'animer. Elle m'a dit, t'étais pas là, Ben, mais que c'était un peu son troisième bébé, donc.
C'est un peu notre troisième bébé aussi.
Ah, hein, tu vois, c'est bien.
D'accord, c'est bien. Les deux sont d'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même en mer, vous allez pouvoir continuer à animer votre site internet qui vend exclusivement à des Américains aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, ouais. Tout à fait.
Les Canadiens aussi, mais il y a peu de produits encore qu'on peut faire.
Ouais. Mais ouais, on est en train de travailler là-dessus, ouais, sur le fait d'internationaliser le site.
Quand il y a 5 ans, vous vous êtes retrouvé expatrié à New York, faut dire que Rouen, New York, c'est pas la même ambiance, hein, c'est pas tout à fait le même rythme de vie. Vous vous êtes vite adapté, la vie américaine vous va bien ?
Alors en fait, c'est rigolo parce que je trouve, hein, quand tu arrives ici, tu commences à côtoyer quand même un peu des Américains. Surtout à New York, en fait, tu côtoies quand même des gens qui viennent du monde entier. Tu entends des gens qui parlent des langues différentes. Enfin, il y a une rue dans le Queens où ils ont fait une étude et ils ont apparemment entendu en une journée plus de 400 langues différentes. Donc, quand tu arrives ici, en fait, tu as l'impression d'être tout le temps en voyage au début. Et en fait, il faut que tu te familiarises en fait, avec toutes ces coutumes, avec toutes ces différentes religions, avec toutes ces différentes formes de politesse aussi. Et ça, c'est hyper enrichissant. Mais au début, c'est vraiment une nouvelle gymnastique. C'est aussi un anglais qui est différent de celui qu'on apprend en France, qui sont faits par tes profs de français, etc., qui parlent français et qui te donnent des cours d'anglais. Ou alors qui sont plutôt britanniques. Donc, enfin, tu vois, c'est tout un... Il y a pas mal de choses à apprendre. D'un point de vue politesse aussi, je trouve. Enfin, j'ai trouvé ça un peu... Au début, un peu difficile.
En fait, je pense qu'on a la vision des États-Unis... On se dit, bon, après tout, c'est un peu la même culture que la nôtre, quoi. Et en fait, quand on arrive et qu'on est sur place et qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de... Il y a pas mal d'habitudes qui sont différentes, même dans les relations entre les gens, ça s'appréhende pas du tout de la même manière. C'est ce qu'on dit souvent, c'est plus difficile de se faire des amis américains que français, parce qu'on n'a pas, nous, la même manière de gérer l'amitié non plus.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est hyper intéressant.
Et dans votre projet, ça va changer à nouveau, puisque cette fois-ci, il y aura une autre dimension, la mer, l'aventure, naviguer, tout ça, c'est... Vous êtes prêts à tout, en fait.
Oui.
Bah, je pense qu'on est, un peu des navigateurs dans l'âme, dans le sens où on a quand même vécu dans plein de régions en France, on a la bougeotte, donc c'est... Et le fait d'être parti à New York, on s'est adapté quand même assez vite. Enfin, d'une manière générale, on s'adapte assez vite à notre environnement.
Merci beaucoup Julie, Benjamin, et donc pendant l'interview, Elaya qui a également eu l'occasion d'intervenir. Amusez-vous bien et à très vite.
Merci Gauthier.
Au revoir.
À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay, vous écoutez Les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard, où que vous soyez.
Girl Just Want to Have Fun. C'était Cyndi Lauper dans les années 80. Nous sommes absolument désolés pour la petite interruption du direct. Hein. On a eu ce qu'on appelle une coupure d'électricité. Véronique, tu me disais que tu avais vécu également, lorsque tu étais dans les pays de l'Est, ces petites joies de coupure d'électricité. Sauf que nous, là, on est en pleine Europe et ça ne devrait pas se passer, mais bon. on en survit. Hein.
La mondialisation et c'est... Avantages, inconvénients.
En tout cas, voilà, nous voilà de retour en direct et c'est parti pour Expat Pratique.
Stéréochic.
Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro.
Direction à Paris, nous sommes dans le 12e arrondissement pour retrouver notre invité du jour en partenariat avec Expat Pro. Bonjour Véronique.
Alors bonjour Gauthier et merci de m'avoir invité.
Très heureux de te retrouver pour pouvoir faire ta connaissance. On va parler un peu de ton parcours d'expat, mais surtout dans le cadre de Expat Pratique, de ta société Verimage. Alors ce petit mot, pour revenir en 86, tu te retrouves conjoint suiveur dans la grande aventure de l'expatriation, direction Budapest. Et là, est dans un autre monde, une autre époque.
J'ai commencé par ce pays-là et qui a été suivi de 3 autres pays. Donc, en tout, j'ai passé près de 13 ans en expatriation, donc en dehors de l'Hexagone.
En 86, voilà. On est encore avec le mur de Berlin, on existe encore dans le monde de la guerre froide. Ouais, c'est un...
Ouais, ouais.
Une région du monde qui a beaucoup changé depuis, mais quand tu as su que tu allais aller là-bas, ça a été quoi ta première réaction?
Moi, je suis toujours fan d'aller vers la culture des autres, de découvrir qui ils sont, leur mode de vie, leurs traditions, c'est super important pour moi. Et en tout premier lieu, la langue. La langue. Ça, tous les pays où je suis passée, on a appris la langue.
Alors, il y a donc eu Budapest, il y a eu la Lituanie, la Pologne et également Washington en 2004. Là, pour le coup, c'est vraiment des cultures, des langues et des univers extrêmement différents. C'est facile de s'adapter. C'est quoi ta technique à toi lorsque tu arrives dans un nouveau pays?
Ma technique, c'est une mise en immersion immédiate. C'est-à-dire que justement, ça passe par la langue parce que je ne veux pas rester dans le cocon français. Puisque je suis là pour découvrir pendant une certaine période le pays qui me reçoit. Donc c'est important d'aller, parfois ça a été à l'université ou après des cours privés, pour acquérir la langue du pays. C'est important même pour le quotidien, pour faire son marché, par la politesse, enfin tout ça, ça fait partie de mon kit d'expatrié.
On va s'intéresser à cette société que tu as créée qui s'appelle Verimage. On va parler de notre look, de notre façon d'être habillé, mais qui représente bien plus que simplement un peu de tissu. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre pays. Tu m'expliquais quand on a préparé l'interview que notre Ségolène Royal, par exemple, qui s'était retrouvée en tenue blanche sur la muraille de Chine, avait fait une erreur, puisque là-bas, le blanc, c'est signe de deuil.
Voilà, dans beaucoup de pays asiatiques, le blanc représente le deuil. Donc, il est bon de savoir quelles sont les couleurs que l'on peut porter et donc, vis-à-vis justement de l'expatriation, de savoir celles que l'on peut porter dans les pays où on va résider.
Bien, Véronique, et donc, c'est pour ça que tu tombes parfaitement sur la radio des Français dans le monde. Justement,
voilà.
Y a une vraie raison de se poser sur ce sujet parce que faire comme Ségolène Royal cette erreur, ça peut même être assez compliqué dans son métier. Donc, il faut être vigilant.
Complètement. Et même si certaines personnes sont entourées donc de coachs, il est possible qu'ils n'aient pas voulu écouter aussi les conseils. Donc on ne peut pas jeter la pierre seulement aux coachs. Alors c'est pour ça en tous les cas que j'ai fondé et que je gère Verimage, donc cette société de conseil en image relooking qui me permet de mettre en valeur des femmes et des hommes qui souhaitent apporter cohérence et harmonie dans leur penderie. Et comme ça, je leur offre ce que j'appelle un vestiaire à la hauteur de leurs ambitions.
Ça touche les hommes, les femmes. Je suppose que tu as, à mon avis, un peu plus de femmes dans ta clientèle.
Tout à fait, statistiquement, oui.
C'est ça, c'est un peu naturel, entre 30 et 60 ans. On vient te voir. La première raison, c'est vraiment lié à son travail ou c'est pour être juste bien dans sa peau?
bien les deux sont reçus, puisqu'en réalité, les personnes qui viennent de me voir et leurs démarches peuvent être aussi variées que quelqu'un au chômage qui souhaite dynamiser son image dans le cadre d'une recherche d'emploi ou de reconversion, quelqu'un qui désire obtenir une promotion mais qui n'a pas les codes, ou tout simplement être plus crédible dans son poste. Ça passe également par des situations un petit peu plus douloureuses comme le harcèlement au travail. La personne souhaite que l'on rebatte un peu les cartes et donc repartir avec une page blanche en quelque sorte, pour mieux rebondir. Et tout ce qui touche à la sphère privée également. On vient me voir pour une fluctuation de poids, une séparation, un divorce, un deuil. Et ce que tu évoquais, ça peut être aussi la simple envie de faire le point et de se plaire avant toute chose.
L'idée, c'est de retrouver une cohérence entre qui on est et les habits que l'on porte. Comment tu travailles ? Comment ça s'organise ? C'est un échange, je suppose, pour commencer ?
Alors, le tout premier échange, effectivement, il y a un fonctionnement avec un processus simple et logique. En préambule, il y a toujours un rendez-vous indispensable qui s'appelle le bilan d'image. Alors, il est d'une durée d'une heure, réalisable à distance, justement, par les canaux que nous utilisons actuellement, donc WhatsApp, Zoom, Skype. Et il permet de poser les fondations de l'histoire de la personne et son désir de changement de look. Donc, à partir d'un questionnaire, on va discuter du ressenti de la personne sur ce qu'elle est, ce qu'elle exprime, et puis également de ce dont elle est moins fan dans sa silhouette, et bien sûr dans quel environnement elle évolue et quel est l'objectif de sa démarche.
Est-ce que les codes vestimentaires évoluent ces dernières années ? C'est encore très présent, le costume et la cravate par exemple dans le monde de la banque, mais on a l'impression quand même qu'avec un monde plus numérique, on a tendance à se décontracter un petit peu. Est-ce que tu observes ce mouvement ?
Ah oui, complètement. Et puis, on l'a d'autant vu dans les périodes de confinement aussi, ce relâchement qui est à l'autre côté du panel, on va dire, entre l'homme en costume trois pièces avec cravate et la personne, en ce moment, le compromis, on irait sur ce que j'appelle du casual chic.
Quand on fait du télétravail, selon toi, vaut mieux s'habiller comme si on allait au boulot, ou alors est-ce que
exactement.
Le pyjama
abandonne le pyjama. En fait, le pyjama, si tu veux, va entraîner un relâchement.
Ah ouais.
Donc, il va se ressentir aussi dans les propos. Alors, évidemment, on peut peut-être garder le pyjama si c'est familial, hein, si c'est un échange familial, mais tout échange professionnel nécessite une certaine tenue. D'où l'intérêt d'ailleurs de s'habiller, c'est pas seulement se vêtir parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud, c'est aussi de la tenue. Donc c'est faire émerger ce qui est à l'intérieur de soi vers l'extérieur, et ça passe par le vestiaire.
Ta société s'appelle Verimage, on la retrouve sur Expat Pro si vous avez besoin d'être plus en harmonie entre qui vous êtes, ce que vous portez. Pour vous ou dans le cadre de votre travail, contactez Véronique Dassonneville, c'est ça ?
Dassonneville.
C'est un petit peu du Nord, je me posais la question. Non, il n'y a pas d'origine dans le Nord de la France ?
Le beau-père.
Ah, bah voilà.
Coup de Kerkebranche pour ceux qui connaîtraient.
Ah, bah, coup de Kerkebranche, tout à fait. Merci beaucoup, voilà. En tout cas, Véronique, d'avoir été avec nous. Plus d'expatriation prévue pour le moment ?
Pas du tout, parce que je peux m'occuper aussi, bien sûr, d'expatriés qui seraient ici en France et qui peuvent donc développer à la fois, bien sûr, l'adaptabilité dans le pays, mais s'approprier avec succès les éléments de la culture où ils résident et les mixer avec leur propre culture. C'est là que c'est intéressant d'être la représentation du pays qui nous envoie.
Espérons que Ségolène Royal ait bien écouté ce podcast et qu'elle ne refasse pas à nouveau cette erreur, en tout cas.
Et ben, je te remercie en tous les cas de m'avoir offert cette fenêtre sur le monde. Et je te souhaite une bonne journée, ainsi qu'à tous les auditeurs.
Merci Véronique.
Merci Gauthier. À bientôt. Au revoir.
En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com.
Stéréochic.
Yo, c'est Solal Rubin sur Stéréochic, la radio des Français dans le monde.
rien ne se répare, tout se remplace. Je dois vivre avec, vivre avec elle, mes plus belles sables jusqu'à ce qu'elle meure.
Super titre, on adore Solal Rubin. On est un peu les seuls à vous l'offrir ce morceau. Et franchement, je souhaite le meilleur. Son interview est à retrouver sur stereochic.fr. Solal Rubin, coup de cœur stereochic avec La Vie. Et voici Média dans le Monde.
Les Français parlent au français.
Londres. 2021, post-Brexit. Mes amis français sont tous rentrés au pays. Et un régime oppressif malsain se met en place au Royaume-Uni. Suis-je le dernier français à Londres ?
Est-il le dernier français à Londres ? On va en parler directement avec lui. Dans un média dans le monde, aujourd'hui, on accueille Olivier, ex-animateur radio. Alors justement, aujourd'hui, tu reprends du service, Olivier.
Oui, exactement. Ouais. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde.
Bienvenue sur Stereochic, la radio des Français dans le monde. On parle régulièrement de ce Brexit qui, ces derniers mois, a quand même pas mal changé les lignes pour les Français expatriés. Mais si tu veux bien, juste avant de parler de ce podcast, un petit retour en Vendée. Tu es originaire de là-bas et ensuite il va y avoir Paris et donc l'aventure de la radio.
Oui, effectivement, j'ai commencé la radio en Vendée, dans une petite radio locale à l'époque. On parle de ça, ça va pas me rajeunir, mais à la fin des années 80. Et bah évidemment, à l'époque, surtout lorsqu'on veut grandir un peu en radio, on monte à Paris. C'est un peu moins vrai sans doute maintenant, mais à l'époque, c'était complètement vrai. Et bah, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, de monter dans la capitale et de me professionnaliser aussi au niveau de l'animation radio. Et d'essayer des radios beaucoup plus importantes comme Rire et Chanson par exemple, Europe 2 à l'époque, etc. En passant par d'autres radios régionales avant, mais bon, le but ultime c'était d'aller à Paris et de devenir animateur radio et surtout d'en vivre.
On a donc été collègues, moi-même j'étais sur Europe 2 dans le nord de la France. Les années passent, il va y avoir une séparation et après la séparation, une envie de vivre l'expérience de l'expatriation. T'es seul, libre, tu te dis je vivrai bien cette expérience hors du commun. Ça a failli être le Québec, c'était un peu compliqué selon toi et puis le climat te faisait un peu peur. Tu as donc retenu plutôt Londres où tu avais des amis là-bas sur place.
Exactement, des amis dans le nord-ouest de Londres, en banlieue. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut mal se passer? Londres, c'est à 2h30 de Paris, même moins maintenant. Et au pire, je rentre. Et bon, c'était en 2003 et je suis jamais rentré.
Alors, tu vas travailler dans une boîte de software. Les années vont passer dans une très belle capitale. C'est vrai que tous ceux qui sont allés une fois dans leur vie à Londres ont constaté la beauté de cette ville, le dynamisme, la musique, les modes. Enfin, il y a tout là-bas. Hein. Quand on est dans un cadre normal, on est bien à Londres.
Ah ben c'est ça. C'est un peu l'Eldorado de l'Europe pour beaucoup de monde. Où, par mon passé, c'était peut-être un peu l'Eldorado de l'Europe pour beaucoup de monde, un peu les États-Unis de l'Europe au niveau des possibilités, des opportunités, de l'ouverture. C'est global. En Paris, j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est une capitale nationale. Londres est vraiment une capitale globale et on voit les différences. C'est très, très, très ouvert. Il y a évidemment toutes les cultures et on baigne dedans en permanence. Et oui, c'est attirant, clairement.
Mais voilà, les conservateurs anti-européens vont venir mettre un peu leur grain de sel dans tout ça. Il va y avoir comme une espèce d'aventure politique un peu inédite autour de ce qu'on va appeler ensuite le Brexit. De base, c'était pas vraiment un projet du pays de quitter l'Europe, mais un peu en se challengeant et à force de se remonter les bretelles, ben on est arrivé à ce coup de théâtre sorti de l'Angleterre, de l'Europe. Ça a été long, très très long, difficile à négocier, mais cette fois-ci on y est, et là t'as pris une claque.
Oui, oui, parce qu'on n'y croyait pas du tout. C'est effectivement une guéguerre interne au parti des conservateurs, un noyau dur anti-européen depuis pas mal de temps, mais bon, là ils ont eu plus d'influence que d'habitude. Un noyau dur anti-européen a poussé Cameron à faire le référendum, qui, sorti de plusieurs victoires, a été, je pense, quasi persuadé de le gagner dans le sens de rester en Europe. Et ça s'est passé autrement, effectivement. Et on a pris une belle claque parce que je me souviens très bien, on a eu les dernières infos un peu avant d'aller se coucher le soir du référendum, vers 22h, 23h, comme quoi on restait dans l'Europe. On s'est levé, on n'y était plus.
Ah là là.
Donc c'était assez... assez étonnant et assez dur mentalement aussi à gérer. Ouais.
Là, ton envie de reprendre le micro te picote les doigts, tu reconnectes tes machines, tu te lances dans un podcast, ça s'appelle Le Dernier Français à Londres. On a écouté un extrait tout à l'heure, un peu de provocation, tu commences en disant « je suis le dernier à être resté ». T'as vraiment eu beaucoup d'amis qui sont partis ?
Oui, oui, il y en a plusieurs, et encore maintenant d'ailleurs. Alors évidemment, c'est un scénario dystopique, on va dire. Hein. Ça va un petit peu dans l'extrême. C'est à l'époque, en particulier, quand j'ai commencé à avoir l'idée du podcast et à commencer à l'écrire, à l'enregistrer, tout n'était pas encore défini au niveau des processus du Brexit. Tout n'était pas encore fini de négocier. Donc, on ne savait pas encore de quoi le futur serait fait. Donc, moi, j'extrapolais là-dessus. En fait, j'extrapolais là-dessus, mais il y a des amis qui sont partis, il y a des choses qui ont changé. On nous demande maintenant des passeports et une preuve comme quoi on a le droit de travailler au Royaume-Uni. En tant que Français, c'est assez nouveau quand même.
Cette dystopie, finalement, t'amène à imaginer ce que serait l'Angleterre sans être dans le Brexit. Et on peut largement et facilement imaginer que ça aurait été très très différent. Il y avait plein de nouveaux business qui se développaient, plein de projets, plein de perspectives. Tout s'est arrêté.
Oui, une bonne partie s'est arrêtée et continue de s'arrêter d'ailleurs, même si ça reste un pays avec beaucoup d'opportunités. Nos enfants, par exemple, moi j'ai une fille de 11 ans, bon, il se trouve qu'elle est britannique parce qu'elle est née ici, mais si elle ne l'était pas, elle n'aurait pas la même facilité de venir comme ça, sans aucune démarche, avec sa carte d'identité française. Elle met, comme j'ai fait moi à l'époque, ses affaires dans un Congo, et en avant Guingamp, on vient au Royaume-Uni, on passe la frontière et ça y est, on s'installe. Et pour les enfants d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est ça que je pense pas mal de gens ne comprennent pas. Et c'est dommage parce que c'est encore une fois un pays qui a tellement à offrir, qui est différent des autres, qui a une culture aussi pop, par exemple, de folie. Et c'est le seul truc, sans être défaitiste, parce que c'est pas trop mon style, mais c'est, malgré ce qui transparaît dans le podcast, c'est effectivement un autre personnage que moi-même. Mais sans être défaitiste, c'est un peu le seul truc qui nous reste, quoi. La musique britannique est toujours aussi exceptionnelle, et rules the world, comme on dit. Et c'est une sorte de petit lot de consolation, quelque part. Mais le reste a changé.
Juste alors, t'es là-bas depuis 2003. Est-ce que tu peux donner 2-3 exemples concrets de choses qui ont changé brutalement avec le Brexit, en tant qu'expat ?
Alors, la mentalité, déjà. La mentalité, je trouve, a pas mal changé. Ça transparaît un peu dans le podcast, mais à l'extrême, mais il y a quand même un fond de vrai.
Vous êtes tous les bienvenus ?
Les Français, ça va encore, mais il y a quand même une mentalité différente par rapport à tout ça qui va consister à faire des réflexions. J'ai pas été victime de quoi que ce soit, mais j'en connais qui l'ont été. Faire des réflexions quand, bah, disons-le, hein, un Anglais de base, comme j'appellerais un Français de base, un Américain de base, ouais, va entendre un passager dans un bus, par exemple, parler notre langue, il aura plus facilement tendance à dire « rentre chez toi » que avant le Brexit, par exemple, parce que ça a libéré une sorte de d'inhibition qu'il y avait avant. Ça légitime ce genre de comportement, et ça a été aussi très très entretenu par la campagne du Brexit qu'on a eue.
Est-ce qu'il y a eu dans les papiers, les démarches administratives, les impôts, les choses de ce style, des choses aussi qui ont changé ?
Au niveau des impôts, non. Au niveau de démarches administratives, pas énormément. Acheter une maison, par exemple, on est toujours à peu près sur un même pied des salles que les Britanniques. À partir du moment où on a ce statut, donc le settlement status, qui est le statut de résident permanent. Moi, je vais probablement devenir un citoyen britannique en 2022, parce que je pense que c'est plus facile et plus sûr aussi. Mais il faut montrer patte blanche pour pouvoir travailler au Royaume-Uni maintenant en tant que Français. Dans le sens où si on n'a pas ce settlement status, ce droit permanent de rester au Royaume-Uni, les boîtes anglaises ne vont pas nous embaucher.
Quand tu as vu des amis partir, tu t'es posé la question de savoir si tu rentrerais en France ?
Oui, bien sûr. Oui, on s'est posé la question plusieurs fois. Il se trouve que ma compagne est française. Elle est plus britannique que française, parce qu'elle n'a jamais vraiment travaillé en France. Mais on s'est rencontrés en 2005. Et étant tous les deux français, on n'avait pas notre fille à l'époque, évidemment. On s'est posé la question, déjà, une première fois à l'époque. C'était bien avant le Brexit. On s'est reposé la question aussi, très récemment, post-Brexit. Et puis malgré tout, le Royaume-Uni a encore pas mal d'atouts. À partir du moment où tu es dans un secteur dynamique, donc l'informatique en est clairement un, il n'y a pas de souci d'embauche, il n'y a pas de souci de recherche d'emploi. C'est même encore en ce moment le marché de l'employé qui va choisir sur 3-4 opportunités. Donc c'est privilégié d'être dans ce secteur, clairement, on en est complètement conscient. Donc à partir du moment où il y a une sorte de situation favorable par rapport au boulot, qui est quand même le plus important en ce moment, on peut encore rester et réussir relativement facilement dans un secteur dynamique, encore une fois, au Royaume-Uni. Donc on s'est posé la question, on a comparé, et puis on s'est dit que non, c'était encore quand même mieux de rester au Royaume-Uni malgré le Brexit. C'est pas par défaut, parce que c'est plus que ça, mais c'est vrai que pour nous qui sommes encore en plein dans une carrière, on voit le travail comme la priorité.
Ouais.
Et le Royaume-Uni est encore un bon territoire pour réussir et avoir une carrière importante.
Olivier, dernière question concernant ton podcast Le Dernier Français à Londres. Ça sort quand ? On le trouve où ? Et c'est quoi la suite ?
Alors, il y a une saison qui est faite, qui est disponible en intégralité pour ceux qui veulent faire du binge listening. Comme on dit chez nous, à la Netflix en audio. Et c'est disponible sur toutes les principales plateformes de podcast, celles que les éditeurs utilisent certainement. Et la suite, alors saison 2, je ne sais pas encore, il va y avoir un épilogue, très probablement, dans peu de temps, une sorte de conclusion supplémentaire de la saison 1, probablement. Il n'est pas encore écrit ou enregistré, mais ça va avoir lieu dans les prochaines semaines ou mois maximum.
À suivre donc. Merci beaucoup d'être venu sur notre antenne, témoigner. Puis
avec
plaisir de te retendre le micro. Quand on a été animateur, on aime toujours ça, même si logiquement, on préfère être à ma place qu'à la tienne.
Oui, ça va. Ça me titille tout le temps de toute façon. J'ai toujours gardé un lien avec la radio depuis que je l'ai quitté. Donc en fait, je n'ai pas vraiment quitté. que ce soit des voix off ou podcast ou autre chose. Mais oui. J'ai gardé un lien.
À bientôt, au plaisir, Olivier. Salut.
Merci, Gauthier. Au revoir.
Les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Les magazines Pomme d'Api, J'aime lire, Image Doc, Wapiti, Géoado ou encore Okapi sont disponibles à l'abonnement partout dans le monde.
Merci d'être sur Stereochic. Voici le flash de 13h avec la rédaction lesfrançais.fr. Et puis on retrouvera Jennifer à Philadelphie qui va nous parler de son métier de sophrologue.
Votre émission sur Stereochic Radio avec Bayard Monde. Jusqu'à l'été prochain, la lecture est déclarée grande cause nationale. Chez Bayard, la lecture est une cause défendue chaque jour de l'année.